Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. Marianne Paquette au micro. J'espère que vous allez bien. En cette émission de C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. Le 17 décembre 2013, la journaliste Mylène Moisan publiait dans le quotidien Le Soleil une chronique intitulée « Maman est une étoile » qui raconte l'histoire, qui racontait l'histoire de la jeune Joliane Fortier, une jeune femme de 31 ans, une maman de deux jeunes garçons, amoureuse folle de son conjoint. Et on apprenait dans cette chronique atteinte d'un cancer qui s'avérait incurable. Une chronique extrêmement touchante qui a été partagée sur Facebook 139 000 fois. Et en avril dernier, inspirée de cette chronique, Mylène Moisan sortait un livre du même titre, « Maman est une étoile », je lui parle en deuxième partie d'émission. Et puis, en première partie d'émission, vous dire que, et on en parle souvent à travers l'émission, les bienfaits de l'exercice physique sont multiples pour tout le monde et c'est également vrai pendant la grossesse. Et en ce moment, les connaissances, de plus en plus on en a, qui sont liées, qui démontrent qu'il n'y a pas de risque à faire de l'exercice pendant la grossesse et même plusieurs bienfaits. Au contraire, là, l'activité physique est bénéfique pour la mère comme pour le bébé. Et la kinésiologue, ostéopathe et copropriétaire de la clinique Spinal Mouvement Rive-Sud a publié un livre à cet effet, 75 exercices thérapeutiques pour la future et nouvelle maman, publié aux éditions de L'Homme. Je lui parle à l'instant. Émilie Fecteau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est votre troisième bébé, ce livre-là, tout nouvellement sorti aux éditions de L'Homme, 75 exercices thérapeutiques pour la future et nouvelle maman. Bon, on le sait, de plus en plus, c'est bénéfique de faire de l'activité physique pendant la grossesse, mais j'imagine que puisque le corps est en pleine transformation, il faut tout de même adapter ses exercices.
Exactement. Donc, c'est ce qui est le plus important, en fait, c'est de comprendre que oui, c'est important de bouger, oui, ça prépare l'accouchement, ça a des effets positifs, on n'arrête plus d'en trouver, finalement, et de les dénombrer. Mais il faut savoir aussi que le corps est en transformation, que les besoins changent. Donc, l'entraînement traditionnel n'est plus tout à fait adapté. Donc, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de cours qui sont faits pour maman, des cours de groupe prénataux qui sont construits pour ça. Puis, on sait maintenant qu'il y a des exercices qui sont à favoriser, puis il y a des exercices qui deviennent contre-indiqués. Puis c'est là qu'il faut un petit peu faire attention. Puis il y a beaucoup de mamans qui ont des douleurs pendant la grossesse, des douleurs au dos, au bassin, aux hanches, au pubis. Puis ces douleurs-là sont parfois reliées à des exercices qui sont inadéquats. Puis surtout, il faut comprendre aussi qu'il y a des exercices qui peuvent prévenir ces douleurs-là ou les améliorer. Donc, c'est vraiment ce sur quoi j'ai misé là, dans l'écriture de ce livre-là, c'est de donner vraiment des outils à la maman pour avoir les bons exercices à faire, mais aussi ceux qui, présentement, dans la littérature, nous démontrent qu'on va réduire les douleurs, réduire les problématiques au niveau du dos et du bassin.
Émilie, vous parliez des besoins qui changent lors de la grossesse. C'est quoi les besoins en matière d'exercice? Exercice physique des futures mamans?
Oui. En fait, on a clairement besoin d'exercices cardiovasculaires. Ça, c'est quelque chose qui est très, très démontré et il y a beaucoup de choses sur le marché pour aider maman à continuer à être active au niveau cardiovasculaire. Il y a des livres, il y a des DVD, tout ça. Au niveau musculo-squelettique, au niveau du corps, des muscles, de la mobilité articulaire, c'est ce qu'il y a dans mon livre à moi. Et en fait, ce qu'on vit, c'est l'amélioration de la posture de la maman pour lui permettre de réduire ses douleurs, mais aussi permettre au bébé de bien se placer dans son ventre, ce qui va donner aussi un accouchement beaucoup plus facile. Alors, il y a certaines postures qui vont favoriser un bon positionnement de bébé, puis des types de postures chez maman qui vont empêcher bébé de bien se placer. Donc, on a des muscles qu'il faut éviter de trop travailler pour prévenir des problématiques. Par exemple, si je parle du grand droit, donc au niveau des abdominaux, on sait maintenant que si le muscle superficiel est très, très fort, on a plus de risques de développer une diastase, donc qui est une séparation de ce muscle-là qui va nous causer des problématiques après l'accouchement. Donc, il y a des... principalement des muscles pour accompagner la posture de maman qui change beaucoup. Mm-hmm. C'est impressionnant de voir une maman jour 1 de sa grossesse et jour de l'accouchement. Il y a des muscles particuliers qui vont soutenir cette posture-là et d'autres qu'il faut plutôt laisser tranquille et justement pendant la grossesse et les retravailler après.
C'est quoi les causes des douleurs des futures mamans, des mères, des femmes qui sont en pleine grossesse?
Ouais, pendant la grossesse, les principales causes de douleurs, c'est les changements posturaux. Donc, évidemment, le ventre étire beaucoup sur le dos, fait un changement de position au niveau du bassin. Dans la littérature, on voit beaucoup que c'est un manque de tonus au niveau des muscles des fesses. Donc, un manque de force au niveau des muscles fessiers qui va causer, augmenter finalement là, les risques de souffrir de douleurs lombaires ou au niveau pelvien, donc au niveau du bassin chez la maman. On a aussi, bien sûr, donc des mauvaises postures. Donc, maman qui va travailler assis toute la journée va avoir besoin de faire des exercices en conséquence aussi parce qu'elle va avoir plus de pression au niveau du ventre. En postnatal, c'est autre chose. Donc, après l'accouchement, les risques de blessures sont là aussi par encore un manque de tonus au niveau musculaire principalement.
Émilie, je pense à ces femmes qui nous écoutent, qui sont enceintes de XY mois, qui se disent « Moi, j'ai jamais été active. Et là, j'ai envie d'éviter ces blessures-là, ces douleurs-là. Est-ce qu'il est trop tard? »
Non, jamais trop tard. Mm-hmm. Donc, définitivement, c'est sûr que maman qui est enceinte de 7 mois, qui est sédentaire, qui n'a jamais fait d'activité physique, ne va pas commencer, par exemple, la course à pied ou un programme qui est intense et tout ça. Mm-hmm. Mais des exercices fonctionnels, donc des exercices pour améliorer sa posture, les muscles profonds, du cardiovasculaire d'intensité moyenne, il n'y a jamais de trop tard pour commencer.
Et ces douleurs-là, bien sûr, elles ont un impact sur le quotidien, sur la santé de la mère et du bébé?
Définitivement. En fait, on sait maintenant que la principale cause d'absentéisme au travail chez la femme enceinte, c'est les douleurs au dos.
Ah ouais.
Donc, oui, ça cause beaucoup de problèmes. La maman qui est enceinte de son deuxième, troisième ou quatrième enfant qui a des douleurs comme ça, les activités de sa vie quotidienne sont définitivement changées, puis beaucoup de difficultés à s'occuper de la petite famille et à arriver à travailler, à s'occuper de la maison en même temps, définitivement.
Mm-hmm. Je le disais tout à l'heure, c'est une bonne chose parce que de plus en plus, on entend parler des bienfaits de l'exercice pendant la grossesse, mais est-ce qu'il reste des exercices à éviter? Bon, on connaît les espèces de préjugés par rapport au saut, mais est-ce que ça s'avère vrai?
Oui et non. En fait, par rapport au saut comme tel, maman qui en a déjà fait avant peut continuer, par exemple, la course à pied ou le jogging à impact léger ou modéré, en écoutant les signes, bien sûr, de son corps. Donc, s'il y a des contractions, s'il y a des pertes, s'il y a de l'inconfort, des étourdissements, on doit arrêter l'entraînement de ce type-là. Par contre, maman qui n'a jamais fait d'exercice avant, oui, on recommande de ne pas commencer d'activité avec impact ou avec saut. Mm-hmm. Les autres exercices qui sont clairement contre-indiqués qu'on ne savait pas avant, c'est par exemple le redressement assis.
Oui, on donc, le voit dans votre livre d'ailleurs.
Oui, j'ai bien démontré les exercices contre-indiqués là, au tout début du livre. Donc, le redressement assis qui est un exercice très classique en entraînement qu'on va arrêter pendant toute la grossesse et même les trois premiers mois suivant l'accouchement.
OK. Parce que... Pourquoi, en fait?
En fait, parce que c'est un exercice qui va solliciter donc le grand droit, le muscle le plus superficiel des abdominaux, qui va aussi créer une hyperpression au niveau du ventre en rapprochant finalement le thorax du bassin, exactement l'espace où se situe bébé. On ne veut pas aller le comprimer. Oui. Puis c'est un exercice qui va aussi créer une poussée sur le plancher pelvien. Donc, pour beaucoup de mamans, va donc prédisposer ou favoriser les descentes d'organes, descentes de vessie ou d'utérus qui sont très fréquentes avec la grossesse.
Oui, mais en même temps, ça laisse la place à une panoplie d'autres exercices, là, s'il y a seulement ça à éviter?
Définitivement, il y a beaucoup d'exercices possibles. On évite autre chose aussi, là. Il y a un chapitre là-dessus au début du livre. Donc,
les fuites urinaires, entre autres choses. La descente des organes, vous en parlez aussi?
Oui, on en parle beaucoup parce que c'est un problème que je vois plus que régulièrement en clinique. Donc, les mamans qui ont accouché soit récemment ou même un an ou deux ans après l'accouchement qui se retrouvent avec des problématiques de fuites urinaires ou de descente d'organes. Donc, j'entraîne traite beaucoup dans le livre pour donner les exercices adéquats et les programmes là, de comment on fait finalement, parce que c'est l'exercice qui va être le plus efficace dans ces cas-là.
Ce qui est, j'imagine, peut-être plus difficile à démontrer, ou du moins ce que je saisis moins, c'est comment bébé s'en sort mieux quand maman fait de l'exercice?
Les dernières études qui ont été faites là-dessus, c'est principalement sur l'exercice cardiovasculaire. Donc, c'est pas au niveau des exercices seulement de posture ou de mobilité. On parle vraiment dans ce temps-là d'entraînement cardiovasculaire. C'est par le fait qu'au niveau hormonal, tout se place mieux chez maman. Il y a une meilleure oxygénation de la mère et du fœtus. Il semblerait que donc le cerveau du fœtus serait mieux développé chez maman qui a été active pendant sa grossesse.
Hey, c'est très intéressant ça, Émilie Fecteau. Bon, quand on fait de l'exercice, on apprend qu'on peut amenuiser les douleurs. Et ça, évidemment, ça a des impacts très positifs. Meilleur sommeil, j'imagine.
Meilleur sommeil, meilleure estime de soi, meilleure énergie, un accouchement plus facile. Accouchement plus facile dit aussi postnatal plus facile. Donc, oui, moins de risque de souffrir de douleurs au niveau musculo-squelettique, mais beaucoup, beaucoup sur l'énergie et le sommeil. On voit de très beaux impacts chez les mamans qui se mettent à faire de l'exercice pendant la grossesse.
Et en quoi l'exercice, et ça, c'est sûr, ça m'intéresse beaucoup parce que accoucher, ça fait peur à bien des futures mamans. Comment ça peut diminuer les douleurs ou faciliter ce moment-là qui demande énormément d'énergie, justement, à la femme?
Oui, en fait, c'est extraordinaire comment l'exercice peut améliorer l'accouchement. De par, premièrement, le positionnement du bébé, comme je parlais tantôt. Donc, si le bébé est mal placé, c'est sûr que l'accouchement va être plus difficile. Un bébé bien placé, il nous donne une belle chance d'avoir un accouchement un peu plus facile. Donc, il y a des exercices à éviter et à faire en fin de grossesse pour favoriser un bon positionnement de bébé. Ensuite, il faut que le bassin de maman soit mobile, soit bien équilibré aussi pour permettre la descente de bébé et le passage. Puis, on a aussi toute la composante du plancher pelvien, donc les muscles qui ferment la base du corps par lequel va passer le bébé à la fin, à la poussée. Il ne faut pas que ce soit trop serré, trop tonique. Donc, à la fin de la grossesse, comme je l'explique dans les programmes de fin de grossesse dans le livre, on va venir relâcher, étirer, permettre au plancher pelvien d'être très souple pour le passage de bébé. Puis ensuite, on sait que maintenant, rester mobile pendant l'accouchement va beaucoup favoriser la descente de bébé. Donc, il y a même un chapitre dans le livre sur les exercices à faire pendant l'accouchement.
Émilie, pour une maman qui aurait eu à vivre une césarienne, est-ce que ça se passe de la même façon, point de vue exercice physique?
Avant, oui, certainement, parce que généralement, il n'y a aucun changement là, jusqu'à la césarienne. Et après, à peu de choses près, oui. Avant, entre autres, on avait tendance à beaucoup immobiliser maman qui a eu une césarienne. On respecte les principes selon lesquels elle ne doit pas soulever de charges lourdes. Ouais. Par contre, les exercices ne sont pas contre-indiqués. On recommence à travailler ses muscles profonds, le transverse de l'abdomen, le plancher pelvien, de la même façon que s'il y avait eu un accouchement naturel vaginal.
Et après l'accouchement, on peut recommencer quand à faire nos exercices?
On peut recommencer à faire les exercices dès l'accouchement si on fait les bons exercices.
Ah oui?
Donc, maman devrait rester principalement alitée, donc couchée pour les 3 premières semaines suivant l'accouchement, mais faire ces exercices couchés. Le problème en ce moment, c'est qu'on voit beaucoup de mamans qui, après 2 jours après l'accouchement, sont debout au parc, en porte-bébé, recommencent les activités quotidiennes. Et c'est ce qui favorise le plus les descentes d'organes et les problématiques après. Donc, ces mamans-là, malheureusement, on les voit après 3-4 mois avec des problématiques, des douleurs dans le bas du ventre, des pesanteurs et des incontinences qui s'installent. Donc, on doit vraiment respecter une période de repos après l'accouchement pour que les ligaments se reprennent, que les organes reprennent leur place. Mais on peut commencer les exercices, mais ces exercices-là sont couchés. Donc, les 2 premiers programmes de la phase postnatale dans le livre, les mamans sont couchées. Et ensuite, on a un 3 mois à respecter après l'accouchement avant de revenir à nos activités d'avant ou à l'entraînement traditionnel. Mais ce 3 mois-là, il faut faire les exercices indiqués pour reprendre les muscles profonds. Alors, si on ne recommence pas nos exercices, on n'a rien fait du tout, ça fait 6 mois qu'on a accouché, bien, il faut quand même faire le 3 mois d'exercices de muscles profonds avant de retourner, par exemple, à la course à pied.
Est-ce qu'on peut inclure papa dans cette routine d'exercice?
Bien sûr, bien sûr. Et les routines sont suffisamment exigeantes pour que papa en sente le bienfait.
Émilie, en terminant, on commence par quoi? Bon, bien sûr, vous en proposez 75. C'est vaste pour différentes problématiques ou préoccupations. Si on a envie de s'y mettre tranquillement, est-ce que vous avez une proposition, peut-être?
En fait, le livre est construit avec beaucoup de programmes, donc je pense que c'est le plus simple à suivre selon les semaines de grossesse. Donc, si maman, par exemple, est à la 12e semaine, elle peut se référer au programme de la 12e semaine de grossesse et elle a trois choix, 20 minutes, 30 minutes ou 40 minutes. Donc, on peut y aller aussi avec notre horaire. Il y a ça pour toute la grossesse et il y a aussi des petits programmes d'une quinzaine de minutes pour chaque petit problème, donc douleur au dos, douleur aux hanches, douleur au pubis, s'il y a une problématique particulière. Donc, oui, les 75 exercices sont proposés un après l'autre, mais la façon la plus simple pour de s'y retrouver est peut-être d'aller voir les programmes pour suivre un canevas plus précis. Par contre, si on a un peu de connaissances en entraînement ou qu'on a envie de plus de variété et d'originalité, bien, les 75 exercices sont détaillés avec leurs bienfaits et leurs indications.
Et ce, autant si on est en période de grossesse que postnatale.
Définitivement.
Et selon différentes problématiques, là, on parlait tantôt fut-urinaire ou quand les organes s'affaissent, ben ça, si on est préoccupé par ces problématiques, on peut aller sélectionner ces exercices.
Exactement. Puis le postnatal est vaste, donc une femme qui a accouché il y a 4 mois pourrait facilement faire les programmes qui sont proposés dans le livre pour retourner à son entraînement traditionnel après.
Et bébé peut nous accompagner?
Oui,
lorsqu'il est arrivé.
Oui, il y a même une petite section d'exercices pour bébé à l'intérieur du livre.
Je pense, Émilie Fecteau, que vous allez accompagner bien des jeunes familles. Et ça, c'est assez chouette de le faire différemment, à votre façon du moins. Je rappelle, vous êtes kinésiologue, ostéopathe et copropriétaire de la clinique Spinal Mouvement Rive-Sud. Merci beaucoup. Et je rappelle le titre de votre livre, 75 exercices thérapeutiques pour la future et nouvelle maman. C'est aux éditions de l'Homme. Merci, Émilie, d'être venue.
Merci, c'est un grand plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Mylène Moisan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste chroniqueuse au quotidien Le Soleil, également auteur de ce livre « Maman est une étoile ». C'est édité aux éditions La Presse. Mylène, je le disais tout à l'heure en ouverture, « Maman est une étoile », chronique publiée 17 décembre 2013, a retenti très, très fort auprès du grand public, probablement parce que c'est extrêmement émouvant. Je le disais tout à l'heure, ça a été partagé sur Facebook 139 000 fois. Et pourtant, au Québec, il y a des dizaines de personnes qui meurent chaque jour du cancer. Pourquoi vous pensez que ça a tant résonné auprès du grand public?
Je pense que ça a touché beaucoup les gens parce que Joliane Fortier était jeune. Elle était belle, elle avait une petite famille, elle aimait sa vie. Évidemment, c'est pas la seule qui est atteinte du cancer et qui en décède qui a ce profil-là. Mais il y avait quelque chose dans cette femme-là, un magnétisme, une façon qu'elle avait d'entrevoir la vie ou d'entrevoir la mort aussi. Donc, je pense que c'est tout ça mis ensemble là, qui a fait que cette femme-là, l'histoire de cette femme-là a touché peut-être plus que d'autres.
Mm-hmm. Ça vous vient d'où ce désir de raconter cette histoire? Est-ce que c'est par... l'attrait ou la résonance du grand public? Est-ce que c'est venu à ce moment-là ou avant?
En fait, moi, j'ai été mise au courant de cette histoire-là quelques semaines avant le décès de Joliane par le père d'une amie de Joliane qui voyait comment elle vivait ses derniers moments, comment les gens autour vivaient ça aussi. Et j'avais contacté Martin Letourneau, le conjoint de Joliane, à ce moment-là. Et là, évidemment, avec tout ce qui se passait, c'était pas le moment là, d'organiser une rencontre où ça convenait pas. Et j'ai laissé Martin Letourneau libre là, de me recontacter là, au moment où il souhaiterait. Il m'a recontacté 2 semaines après le décès de Joliane et je l'ai rencontré chez lui là, très, très, très peu de temps là, après la mort. Et donc, il était dans une espèce d'état... pas second, mais il y avait une espèce de presque le mot euphorie, évidemment, est pas approprié, mais étant donné le magnétisme qu'avait Joliane et tout ce qu'elle avait fait pour préparer son décès, il se sentait fort comme pour pouvoir passer par-dessus ou composer là, avec l'absence de Joliane. Et je pense que ça aussi, ça a peut-être permis à plusieurs personnes là, d'être touchées puis de se rendre compte que finalement, il y a moyen de vivre la mort d'une façon là, un peu sereine ou néanmoins avec une certaine paix intérieure.
Mm-hmm. Lors de l'écriture du récit du livre « Maman est une étoile », on parle de pas loin de quoi, 300 pages. Mm-hmm. Vous aviez souvent à consulter Martin pour lui demander c'était quoi le parfum de Joliane ou bon, d'autres choses de leur quotidien. Comment on fait pour entrer dans cette intimité sans brusquer, sans faire de la peine?
Martin était évidemment conscient là, quand il a accepté d'embarquer dans ce projet-là, de ce que ça représentait. Peut-être pas autant, mais l'écriture a été concentrée sur 2 mois. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'en est sorti. Moi, j'écris de la mi-octobre à la mi-décembre, donc évidemment, les questions que j'avais à lui poser se sont concentrées sur ces 2 mois-là. Et pour lui, c'était une démarche, je pense qu'il a vécu là, de façon très très raisonnée. Là, il se disait, bon, mais on fait le livre et après ça, ça va boucler la boucle. Donc, pour lui, c'était comme une espèce de dernier coup à donner avant d'en arriver là, au livre là, où là, Joliane allait être complètement racontée. Là. Puis pour lui, c'était sa façon parce que c'est lui qui possède le plus grand nombre du morceau de morceaux de casse-tête. Là. Il y a la mère aussi de Joliane là, qui a été très généreuse et à qui j'ai beaucoup parlé aussi là, pendant l'écriture. Donc, ces deux personnes-là étaient essentielles là, pour raconter l'histoire de Joliane et ils ont été vraiment d'une disponibilité là, incroyable, même si je savais que chaque fois que je posais une question, bien, je les ramenais toujours à Joliane, je les ramenais toujours à une période de leur vie où elle était là, à des conversations. Souvent, je demandais le détail. Là, les conversations qui sont dans le livre, à quelques mots près, sont exactes. Donc, je demandais toujours, rappelez-moi la conversation, rappelez-moi le moment. Il disait quoi dehors? Donc, c'est très difficile pour ces gens-là là, de constamment là, devoir retourner là, dans ces moments-là, mais ils l'ont fait vraiment là, de façon très, très, très généreuse.
Mylène, vous le disiez tout à l'heure, Joliane Fortier a préparé son départ. Elle avait 2 jeunes fils. Elle a préparé un journal intime pour eux. Elle a préparé une vidéo, des photos. Est-ce que cette préparation-là, vous croyez, a favorisé ou du moins aidé au deuil de Martin Letourneau, son conjoint, de ses enfants et de sa famille?
Je crois que oui. Oui, évidemment, bon, dans tout deuil, il y a des hauts et des bas. Mais la façon dont Joliane a préparé son départ, là, il y a eu plusieurs vidéos, plusieurs photos, il y a eu des albums, elle a fait des albums pour ses enfants, il y a eu bon le journal intime, il y a eu aussi toute cette... Joliane avait demandé à plusieurs personnes autour d'elle de raconter des anecdotes d'elle et de ses enfants, et surtout d'elle, pour que ses enfants puissent connaître leur mère de plusieurs façons, par plusieurs personnes, sachant qu'avec les années, les souvenirs s'estompent. Donc, en demandant, elle a demandé que ces textes-là soient remis à ses funérailles. Donc, avant de mourir, elle a dit, bon, ben, il me reste quelques jours à vivre, je vais vous demander à tout le monde de faire un petit effort, de prendre papier et crayon et de raconter une histoire que vous vous souvenez de moi et de la mettre, de déposer dans une boîte à mes funérailles pour que mes enfants, un jour, puissent lire ces histoires-là. Donc, évidemment, c'est particulier d'en arriver comme ça à faire le pont de son vivant entre sa présence et son absence. Mais Joliane avait vraiment fait beaucoup de choses justement pour traverser là, de l'absence à la présence, de la présence à l'absence pour ses enfants. Plus, ils sont très petits, ses enfants. Là, oui. Mathias a 5 ans et Nicolas a 3 ans. Mais quand ils seront plus grands, ça fera plusieurs années qu'elle est plus là. Donc, mais ces histoires-là vont être encore collées sur le réel, très, très concrètes.
Mm-hmm. Mylène Moisan, vous pensez que ça peut aider d'autres familles au Québec qui vivent cette épreuve-là et aussi la perte d'un être cher?
Bien, déjà, plusieurs personnes qui l'ont lu, le livre, m'ont écrit pour me dire là, que ça leur a fait beaucoup de bien. Bon, évidemment, c'est pas un livre qui est très, c'est pas un livre qui est joyeux, mais les gens qui le lisent en ressortent avec une espèce de goût de vivre, avec ouais. un goût de faire des choses, avec une fille dont la mère est décédée alors qu'elle était très jeune, et ça l'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup à comprendre comment sa mère se sentait quand elle est partie, parce qu'elle n'avait jamais pu parler à sa mère, jamais pu savoir comment sa mère avait vécu ces dernières semaines, ces derniers moments. Évidemment, chaque histoire est unique, mais ça lui a donné une idée de comment sa mère aurait pu vivre ça, donc partir, quitter son enfant, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sentent abandonnés ou on le sent un peu dans l'histoire avec Joliane, parce que Mathias avait 4 ans quand Joliane est partie, et Mathias ne comprenait pas, lui, tout ce qu'il voyait, c'était sa mère qui l'abandonnait. Donc, les enfants dont les parents quittent très tôt, ça peut les aider à comprendre que finalement, le parent ne les abandonne pas. Donc, le parent voudrait tout faire pour rester, mais finalement, c'est que la vie en a décidé autrement.
Donc, ce livre-là peut amener un baume, une compréhension également, c'est ce que j'entends. Et pour vous, Mylène Moisan, qui êtes journaliste, ça a amené quoi, cette rencontre avec cette jeune famille?
Moi, j'ai jamais rencontré Joliane, j'ai rencontré Martin
ouais,
surtout.
C'est vrai.
Je suis mère de 2 jeunes garçons, presque du même âge de ceux de Joliane et de Martin. Donc, cette écriture-là a été très exigeante, non seulement en termes d'écriture, là, mais en termes d'émotion, parce que tout au long du projet, de l'écriture, c'était difficile pour moi de garder toujours une distance oui. entre nos deux histoires, parce que, comme elle, j'aime la vie, j'ai un amoureux que j'adore, j'ai des enfants, j'ai une belle maison, j'ai un travail que j'aime, donc on a deux profils presque que similaires, sauf que elle, sa vie s'est arrêtée à 31 ans et la mienne continue. Évidemment, il faut pas avoir une espèce de c'est pas un sentiment de culpabilité, mais quand même, là, justement, de pas prendre ce sentiment-là pour qu'il soit négatif sur la culpabilité, mais de dire, regarde, moi, j'ai une belle vie, je vais en profiter, puis pour tous ceux et celles qui peuvent pas le faire. Hein.
Oui. Mylène Moisan, c'est un très beau cadeau que vous avez offert à cette famille-là, et je trouve ça extrêmement émouvant. Et vous le disiez, vous ne l'avez jamais rencontrée, Joliane Fortier, mais en même temps, vous la connaissez tellement.
Mm-hmm. Bien, les gens qui étaient très proches d'elle sont très surpris de voir à quel oui. point j'ai réussi à refaire l'histoire de Joliane en gardant toute l'espèce d'authenticité de Joliane oui. sans jamais l'avoir connue. Mais ça montre à quel point les traces qu'elle avait laissées étaient
merci,
fortes.
Merci, Mylène Moisan. Merci beaucoup pour ce livre-là. Je rappelle, vous êtes journaliste chroniqueuse au quotidien Le Soleil. Maman est une étoile, publiée aux éditions La Presse. Au revoir.
Au revoir.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. À demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.